Bonjour à tous, vous écoutez L'écho du Felipe, un podcast du Festival du livre et de la presse d'écologie. Cet épisode a été réalisé avec Garance, Elsa et Océan, étudiants en première année du DUT Infocom Option Métiers du Livre à l'UIT Paris-Descartes dans le cadre de leur projet tutoré accompagné de Laurine du Felipe. Dans l'épisode précédent, nous avons échangé avec Galia Tapiero, fondatrice des éditions Kilowatt, autour de la question « Comment parler d'écologie aux enfants à travers les livres ?» Aujourd'hui, nous abordons la même thématique en compagnie de Marie Collot. Marie Collot, vous avez été professeure de français et vous êtes autrice de livres pour les enfants et les adolescents. Vous avez récemment publié plusieurs livres pour enfants autour de l'écologie, comme « Démons en fleurs » illustré par Caroline van der Stappen aux éditions Code Code Code, ou encore « SOS forêt en détresse » illustré par Annabelle Gormand dans la collection « Enquête graphique » des éditions Kilowatt, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent avec votre éditrice, Galia Tapiero. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter, nous dire un mot sur pourquoi avez-vous choisi de vous adresser aux enfants via les livres et est-ce que l'écologie a toujours été au cœur de votre réflexion ou est-ce plutôt une évolution?
Bonjour à tous, je m'appelle Marie Collot, je suis autrice jeunesse, j'ai publié plusieurs romans, comme vous l'avez dit, pour les adolescents, pour les jeunes lecteurs, donc avec des illustrations et puis aussi des albums. Alors, j'ai toujours écrit pour la jeunesse. En fait, c'est la voix qui s'impose à moi dès que je passe à l'écriture. Donc, j'aime m'adresser aux enfants. J'aime partir de personnages qui sont jeunes, adolescents, parce que je trouve que c'est un très, très bel âge. C'est l'âge des découvertes, des premières fois, des explorations, des gros chocs aussi émotionnels. Donc, je trouve que c'est vraiment un terrain très, très intéressant. Et puis, je reste connectée aussi, je pense, avec la petite fille et l'adolescente que je suis. Et donc, c'est pour ça que j'écris des textes pour les enfants. Alors, l'écologie, elle n'a pas été toujours aussi présente, en tout cas dans mes premiers textes. Moi, j'ai commencé surtout à écrire des romans pour ados au départ. Mais je pense que de plus en plus, elle s'impose soit comme thématique principale, soit en toile de fond dans mes livres. Alors, ça correspond tout à fait à mes préoccupations personnelles, à l'évolution aussi des préoccupations sociétales, le réchauffement climatique dont on parle beaucoup, puis tous les actes à poser en tant que citoyen, puis les décisions à prendre. Et donc, fatalement, à un moment, malgré moi, quelque part, parfois, ça va se refléter dans mes choix de sujets, dans mes livres, dans les histoires vers lesquelles je me dirige parce que je me sens concernée en tant que personne. Et comme j'écris en partie avec moi-même, ben mes préoccupations vont se retrouver aussi dans mes textes.
En tant qu'autrice, est-ce que vous pouvez nous dire ou nous expliquer comment se construit un projet de livre comme par exemple SOS Forêt en détresse? Quelles sont vos inspirations et vos motivations dans ce genre de projet?
En fait, pour SOS Forêt en détresse, c'est parti d'une rencontre. Et donc, il y a des livres qui naissent comme ça. Et dans le cadre du Salon Montreuil, j'avais rencontré Galia Tapiero qui m'avait parlé de sa collection. Et ça avait tout de suite retenti en moi. Et ça m'avait vraiment attiré de travailler plus particulièrement sur l'écologie, puisque comme je viens de l'expliquer, ça me concernait d'emblée. Et puis, je trouvais, il y avait à l'époque un livre qui a été publié, une enquête graphique, et j'adorais le format, la façon dont elle avait conçu sa collection. Et donc voilà, c'est une idée comme ça qui tombe, une petite proposition, le fait que ça existe. Et puis alors, y a tout ce temps où ça mûrit, en quelque sorte. Et puis, moi, je travaille beaucoup au départ avec des personnages. Donc, c'est des personnages qui viennent à moi plutôt qu'une thématique. La thématique, je la découvre au fil de l'écriture. En tout cas, je ne pars jamais d'elle. Donc, tout ce que j'ai écrit autour de l'écologie, ce n'était pas « bon, ok, maintenant je m'assieds et je dois trouver quelque chose sur l'écologie parce que j'ai décidé de traiter de ça ». Donc, toujours à la base des personnages et leurs problématiques qui m'intéressent. Et avec l'existence de cette collection, est venu en moi, enfin, dans mes idées, un lieu, en fait. Un lieu qui est… le jardin donc que rejoignent ces enfants, le jardin de leur grand-mère, et au bout duquel il y a une forêt. J'ai visualisé cet endroit, et alors à partir de là, j'ai commencé à réfléchir et à tisser quelque chose en me disant, fatalement, si ils y vont régulièrement, ils y sont attachés. Donc, je pourrais éventuellement aborder la disparition de cette forêt ou le fait qu'elle soit menacée. Et c'est comme ça que c'est venu, mais c'est en voyant d'abord cette forêt dans mon imaginaire, via ce lieu que ces deux enfants pouvaient fréquenter en été.
Comme vous avez une expérience d'enseignante, comment est-ce que votre préformation, finalement, a influencé votre travail d'autrice?
En fait, en tant qu'enseignante, moi, je travaillais avec des jeunes adultes. Donc, je formais des futurs éducateurs spécialisés. Ils avaient tous plus ou moins 18 ans. Donc, finalement, j'étais pas véritablement avec un public d'enfants, en fait. Donc, ce n'était pas à ce contact-là que pouvaient me venir des idées d'histoire ou certaines observations, certains élans pour écrire. Mais par contre, l'accompagnement que j'ai eu en tant que professeur pour ces éducateurs spécialisés, ça m'a beaucoup marqué, puisque les éducateurs travaillent avec des publics en difficulté, avec des publics qui sont exclus. Et donc, comme je les encadrais dans le cadre de leur stage, j'ai visité plein d'endroits et j'ai rencontré plein de publics que j'aurais peut-être pas forcément croisés. Et ça a assez bien aussi marqué une partie de mes textes.
Également, on a vu que vous faisiez des interventions dans les écoles. Comment ça se passe en général? Est-ce que vous parlez d'écologie? Comment ça se passe avec les enfants et comment vous communiquez avec eux?
Alors, dans les interventions, généralement, ce n'est pas moi, à nouveau, qui amène un thème et qui souhaite le travailler, sauf si éventuellement les enseignants faisaient la demande, mais c'est assez rare. Et donc, on part toujours de ce que les enfants ont lu. Donc, ils m'ont d'office lu via certains textes, via certains romans. Et à partir de là, ils ont des observations, ils ont des réflexions, ils ont des questions. Et c'est dans ce dialogue qui s'installe qu'on va aborder éventuellement l'écologie et les petits actes que vont poser au quotidien, des choses qu'ils ont remarquées dans le texte et qui résonnent par rapport à ce qu'ils connaissent, par rapport à des questions qui se posent, par rapport à l'actualité. Enfin voilà, donc c'est de manière d'abord assez spontanée et implicite que ça se met. Et surtout via dialogue, la parole, les échanges avec les pairs.
Quand vous parlez d'écologie aux enfants, que ce soit par exemple dans vos interventions ou dans vos œuvres, quelles sont vos intentions? Quel est le genre de message en fait que vous voulez faire passer?
Alors, c'est vraiment une question compliquée pour moi parce que je passe mon temps souvent à répéter qu'en fait, j'écris vraiment pas pour faire passer un message, ou en tout
D'accord.
cas pas un message particulier, parce que je considère que les enfants et tout lecteur sont intelligents et peuvent aller chercher dans un texte le sens que ça a pour eux, l'écho que ça va faire à ce moment-là. Et donc, j'aime pas du tout dire que mon texte est porteur d'un message en particulier parce qu'il y a toujours différents axes d'entrée, différentes interprétations, et que ce serait assez réducteur et assez réducteur aussi pour le lecteur. Je dirais que de manière générale, en suivant les héros et les personnages, c'est toujours des enfants qui vont être actifs et qui vont être en lien avec les autres, et qui vont toujours avoir envie de réagir, de peut-être changer les choses, de les comprendre différemment, de sortir de leurs petites habitudes, de leurs peurs, éventuellement, et c'est le collectif souvent qui va les y aider. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être ma manière d'aborder des choses et ce qu'on peut retrouver au fond de la plupart de mes textes. Et c'est valable pour ceux qui ne traitent pas forcément d'écologie d'ailleurs.
Pour poursuivre en fait sur la façon de communiquer l'écologie aux enfants, il y a plusieurs écueils à éviter. Ne pas donner d'injonction, ne pas faire peur ou déprimer ou employer un ton trop moralisateur. Mais alors, comment est-ce qu'on s'adresse aux enfants et pour leur dire quoi?
Je pense que faut leur tenir un discours qui peut être de l'ordre de la vérité par rapport à l'écologie. Je pense que les enfants sont quand même assez conscients des problématiques, peut-être pas avec la précision de certains adultes, mais la plupart des enfants que je rencontre se sentent concernés, connaissent tous le mot réchauffement climatique, le fait qu'il faut préserver la planète. Quand même une sensibilité par rapport à la nature, aux animaux, etc. Donc, je pense qu'il faut tenter d'être le plus juste possible et c'est-à-dire ni alarmer, ni être alarmiste, ni être injonctif, ni enjoliver les choses. Donc, c'est être réaliste, c'est les informer, et via l'histoire, la fiction qui est racontée, on peut effectivement amener cette idée que, à leur échelle, les personnages dans une histoire, c'est le cas dans SOS Forêt en détresse, par exemple. Mais ces deux jumeaux, c'est juste à côté de chez eux. Cette forêt, ils repèrent un problème, ils décident de réagir. Et puis, dans cette forêt, à cause de l'abattage de certains arbres, ils découvrent un œuf qui est tombé du nid. Ils décident d'en prendre soin. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est aussi une bonne manière d'éviter d'être tétanisé par... l'ampleur de la tâche et de rajouter une couche dans l'éco-anxiété qu'on peut tous avoir quelque part, c'est peut-être aussi de dire, voilà, l'écologie, ça commence chez soi, avec soi, ses frères et sœurs, ses copains, à l'école, avec les autres, par beaucoup de petits gestes qui ne sont pas inutiles, loin de là. Et je pense qu'il faut leur faire confiance aussi. Et pas penser que parce que ce sont des enfants, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas agir à leur manière. Enfin, il y a plein de classes, plein d'écoles qui ont des projets géniaux quoi, pour sensibiliser à l'écologie.
Il y a un travail peut-être de recherche qui a été fait de votre côté ou alors avec vos relations avec l'éditrice, avec l'illustratrice. Comment ça s'est passé en fait, pour bien pouvoir aborder ce sujet-là avec les enfants?
Moi, que le sujet finalement est devenu la déforestation, évidemment, il y a eu toute une phase au moment où j'avais quand même l'idée de l'histoire, les personnages, plein de choses déjà, où je voulais que ce soit correct ce que je racontais et que ça colle vraiment à la réalité. Donc, je me suis renseignée sur, sur l'abattage illégal, sur la manière dont les forêts sont protégées. Pour que l'enquête qu'ils mènent soit réaliste et ses étapes aussi. Donc ça, je l'ai fait vraiment toute seule dans mon travail d'écriture, comme je le fais avec d'autres sujets pour d'autres romans, parce qu'il y a toujours un travail de recherche important qui vient nourrir l'imaginaire aussi, et puis assurer qu'on ne fait pas fausse route dans ce qu'on raconte si on est dans une histoire qui est réaliste. Et puis j'ai soumis une première version de mon texte à Galia Tapiero, qui m'a fait certains retours pour ajuster, pour que ce soit tout à fait en phase avec le format, puisqu'on est dans une enquête graphique et qu'il y a une grande place qui est laissée à l'illustration. Et donc, pour éviter parfois certaines redondances, privilégier des dialogues et justement bien affirmer les actions des personnages pour défendre cette forêt qui est en danger. Et puis après ces révisions sur mon texte, sur base de ces conseils, c'est l'illustratrice qui a travaillé. Moi, j'ai découvert les premières esquisses et puis le style graphique qu'elle avait choisi. Et puis après, son travail quasiment terminé.
Oui, parce qu'en plus, on avait vu qu'à la fin, par exemple, du coup, de SOS ouais. en détresse, il y avait deux pages documentaires qui informaient vraiment du coup, les enfants de la réalité du problème écologique que vous avez apporté.
Oui, et ça, c'est pas moi qui l'ai rédigé. Donc, moi, je me suis vraiment occupée du côté fiction. Et puis après, il y a eu ce bonus qui est toujours présent dans ces enquêtes graphiques. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée parce que on a justement les deux, quoi. On a l'histoire qui porte, qui donne de l'élan, qui montre que les personnages peuvent transformer les choses et le monde dans lequel ils vivent à leur échelle. Et puis, le focus sur, dans notre monde à nous, cette problématique dans notre réalité.
Alors, pouvez-vous nous parler plus amplement de Démons en fleurs ?
Démons en fleurs, c'est un roman illustré qui suit pendant une année, pendant les quatre saisons, un jardinier un petit peu particulier dans son jardin. C'est un jardinier qui est poète, donc lui, il va cultiver des mots. Donc, c'est extrêmement différent l'angle d'approche que SOS Forêt en détresse. On est dans le concret et dans l'action, la lutte, l'enquête. pour défendre une forêt. Ce personnage-là, lui, il est dans la lenteur et il laisse la nature faire. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas du tout dans son jardin. Il regarde pousser les fleurs, il lit, il fabrique des poèmes avec les mots qu'il cueille. Et je trouvais que c'était aussi important de montrer ce rapport-là à la nature, qui est beaucoup plus dans la douceur et l'acceptation de ce qu'elle est, plutôt que sa transformation, puisque la majorité des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sont dus à cette exploitation excessive de la nature qui ne nous suffit pas et qu'on veut sans cesse transformer. Et là, c'est un personnage qui accepte tout, et en face de lui, il a son alter ego dans la parcelle d'à côté, puisqu'il a un voisin qui, lui, est très... très ancré dans la terre, qui fait pousser ses légumes, qui essaie d'avoir les plus gros légumes, qui les classe par ordre alphabétique, enfin, qui est vraiment dans la culture. Et au départ, dans l'histoire, ils ne se comprennent pas du tout, parce qu'ils n'ont pas la même vision de la nature et quelque part la même vision de la vie. Mais petit à petit, il va avoir des liens qui vont quand même se créer entre eux, et ça va s'adoucir, ça va s'assouplir entre les deux hommes. Et donc dans ce texte-là, on s'est aussi beaucoup amusé parce qu'on a transposé, on a créé des mots génétiquement modifiés, par exemple, pour un petit peu se moquer de ça. Donc c'est un rapport avec ce qu'on connaît, mais voilà, c'est transposé à cet univers qui est tout à fait particulier, qui est un peu plus en suspens.
Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur vos futurs projets d'autrice en lien avec l'écologie ?
Alors, il y en a qui sont à leur balbutiement, donc ça, je les garde un petit peu secret parce que c'est encore trop tôt pour en parler. Ils sont juste à l'état de petites graines, mais il y a une sortie bientôt qui est la réédition d'un de mes romans qui date de quelques années, qui a changé de titre sous ce nouveau format, qui s'appelle « Mon premier potager en classe », et qui raconte l'histoire d'une classe qui a une maîtresse assez exceptionnelle, qui se lance dans beaucoup de projets pour sensibiliser ses élèves, et qui réalise que finalement, dans sa classe, il y a très peu d'élèves qui connaissent la diversité de tous les fruits et légumes qui nous entourent, et que certains aliments leur sont inconnus, et donc ils décident vraiment de creuser ça avec eux et de mettre en place au sein de sa classe des petites graines, des petites pots, de commencer à laisser pousser des choses et de suivre ça avec eux. Et donc là, c'est un roman où l'écologie est vraiment centrale, où les personnages sont vraiment là dans le concret, dans l'action, et où ils se vivent dans la fiction ce qui pourrait se vivre vraiment au sein d'une classe, et ça se raconte de manière rigolote, puisque les enfants qu'elle a dans sa classe ont eux toujours aussi des grandes idées, un peu la folie des grandeurs, et tous les projets qu'elle met en place à la base ne se passent jamais comme elle le souhaite. Il y a toujours des surprises, puis des bêtises aussi.
Et un petit mot pour conclure, selon vous, y a-t-il une recette pour parler d'écologie aux enfants à travers les livres ?
Alors, une recette, je ne pense pas, parce que de manière générale, en écriture, je trouve qu'il n'y a pas de recette. Et c'est bien ça le problème, et bien ça aussi la beauté de tout travail d'écriture. Donc moi, je dirais que simplement, ce que j'espère, c'est que l'écologie ne va plus rester seulement une thématique sur laquelle on décide de porter le regard, mais que dans davantage de livres, finalement, elle va faire partie de l'histoire en toile de fond, sans nécessairement qu'on attire l'attention, enfin, comme elle devrait l'être. Enfin, elle devrait avoir plus de place encore que celle qu'on lui donne aujourd'hui dans la société actuelle. Et on devrait être beaucoup plus proche de la nature, finalement, que ce qu'on l'est. Je pense que les histoires peuvent laisser la part belle à ça, plutôt que d'en faire simplement une thématique. Dans les histoires aussi, le lien à l'autre, tout ce qui est de l'ordre de l'empathie, enfin, tout ça, ça fait partie aussi de toutes les histoires, et sans doute que le rapport à la nature devrait l'être davantage.
Merci beaucoup, Marie-Colo, d'avoir accepté une invitation et d'être venue nous parler d'écologie à travers la littérature jeunesse. Et ce fut un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous.
Merci beaucoup.